merci Joël, merci à toute l'équipe. Donc, avant de continuer, j'aimerais juste qu'on puisse prendre un temps pour prier ensemble, que le Seigneur nous donne un bon temps dans sa parole ce matin. Oui, Seigneur Jésus, merci de nous rassembler autour de toi, autour de ton trône ce matin. Merci de nous révéler qui tu es. Merci aussi qu'on puisse comprendre, Seigneur, ce que tu fais dans nos vies et ce que tu veux faire. Et on prie, Seigneur Jésus, que ce matin, tu puisses me remplir de ton esprit, que tu puisses, chacun d'entre nous, nous remplir de ton esprit, afin qu'on puisse être à l'écoute, Seigneur, de ce que tu veux nous communiquer, de ce que tu veux nous dire. Et on prie que tu puisses utiliser ta parole pour transformer nos vies. C'est toi qui dis que ta parole ne retourne pas à toi sans effet, sans avoir accompli le but pour lequel elle a été envoyée. Et c'est ce que nous te demandons, Seigneur, c'est d'accomplir cette promesse, de faire cette chose avec la parole qu'on entend ce matin dans nos vies. C'est en ton nom, Jésus, qu'on prie. Amen. Eh bien, on est officiellement dans la deuxième semaine de Libération 21. Ça commence aujourd'hui, cette deuxième semaine-là. Donc, si vous vous souvenez, il y a deux semaines passées, Norman nous a lancé dans Libération 21 comme un pré-lancement du 21 jours de prière pour mettre la table, pour préparer ce qui s'en venait, ce 21 jours de jeûne et de prière, cette campagne de toute l'Église au complet. La semaine passée, c'était le premier dimanche, donc les 21 jours ont commencé officiellement dimanche passé. Dominic King nous a parlé de la relation entre la prière et la foi. Et cette semaine, c'est mon tour de vous apporter la parole. Et la semaine prochaine, ça va être Éric Lantier. Et dans deux semaines, c'est un dimanche de célébration où nous allons avoir les témoignages de l'un et l'autre dans l'Assemblée. On veut célébrer ce que Dieu est en train de faire, ce que Dieu a fait et ce que Dieu fera. Et donc, c'est un peu le parcours qu'on prend là, depuis quelques semaines et où on s'en va dans les deux prochaines semaines. Et ce matin, j'ai le privilège de vous apporter la parole de Dieu. Normalement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je pense que la plupart me connaissent, mais au cas où, moi je m'appelle Alexandre Farley, je suis un des pasteurs ici à l'église de Sentier. Habituellement, on me voit avec une guitare en train de chanter, et là, j'ai le privilège d'apporter la parole de Dieu, et je remercie vraiment le Seigneur de pouvoir me donner ce privilège-là. Cette semaine, nous allons regarder ensemble une prière connue, tellement connue que pour certains est devenue banale. Le Notre Père. Je suis convaincu que plusieurs d'entre vous seraient capables de réciter par cœur le Notre Père. Plusieurs traditions d'Église la récitent. Ça fait partie de la liturgie. Les orthodoxes, ça peut être les catholiques, les anglicans ou les presbytériens, vont en faire une utilisation commune, assez courante, tellement que pour plusieurs, c'est devenu un peu mécanique ou banal de le réciter. Et ce matin, on veut regarder ensemble le Notre Père. Et on va voir que la prière a une puissance de transformation. Dieu veut utiliser non seulement le Notre Père, mais la prière en général pour transformer nos vies. Parce que moi, j'ai besoin d'être transformé, tu as besoin d'être transformé, et l'Église au complet, même le monde entier, la ville de Gatineau, le monde entier ont besoin d'être transformés. Puis peut-être tu te demandes, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce qu'on a à ce point-là besoin d'être transformé? Bien, je te dirais que personne sur la terre peut parfaitement et en tout temps être au-dessus de ses affaires, comme on dit. Performer, rencontrer les standards de la société ou même de Dieu. Dans nos relations, que ce soit même le travail, le mariage, la famille, notre état de santé, la manière dont on se sert les uns les autres, qu'on vient en aide aux plus démunis, la manière de gérer nos finances ou même notre attachement en Dieu. En anglais, on dit « name it », tout y passe. Personne vraiment est capable d'être au-dessus de ses affaires dans tous ces domaines-là et avoir une note parfaite. Même moi, par exemple, on ne m'a pas demandé de faire un discours ce matin sur la prière parce que je performe dans ma vie de prière. Au contraire, je lutte intensément dans ma vie de prière, dans la fréquence, dans l'intensité, dans la longueur des temps de prière, dans la qualité des temps de prière passés avec Dieu, dans cette atmosphère de prière quand on lit un texte comme 1 Thessaloniciens 5:17 qui dit « prier sans cesse » où on parle plus d'être toujours dans une atmosphère de prière, d'être capable de se tourner vers Dieu à tout moment de la journée. Honnêtement, moi, je lutte avec ça. Puis je pense que c'est probablement le cas pour la plupart d'entre nous ce matin. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut nous transformer et il utilise la prière pour le faire. Comment est-ce que Dieu peut utiliser la prière pour nous transformer? Mais une des manières que j'ai trouvé de l'illustrer, c'est un peu ce que les parents font avec leurs jeunes enfants. Par exemple, moi, j'ai 4 enfants. Mon dernier, c'est un enfant de 5 ans, il s'appelle Philippe. Puis, comme les autres, Philippe n'a pas l'habitude de demander « s'il vous plaît » et de dire « merci » très souvent. Puis c'est intéressant parce que, je ne sais pas si c'est une question de power trip de parents. Les parents sont obsessifs, compulsifs, mais à tout moment et en toute occasion, utile ou non, ils trouvent le moyen de faire dire « s'il vous plaît » et dire « merci », demander « s'il vous plaît » et dire « merci » à leurs enfants. C'est comme « non, tu vas dire « s'il vous plaît » puis tu vas dire « merci ». C'est important, c'est comme… En fait, je n'ai pas l'impression que c'est vraiment une question de power trip. Je pense qu'il y a une utilité en arrière de ça. Et de la même manière, il y a une utilité en arrière de la prière. À quoi sert pour des parents d'être si insistants à dire « s'il vous plaît » et « merci » à leurs enfants? Mais ça sert à enseigner quelque chose. Ça sert à enseigner Philippe, mon petit gars de 5 ans, d'être poli, que dans la vie, il y a quelque chose qui s'appelle la politesse, puis que c'est important de devenir poli. Ça l'aide à l'aider à devenir poli. Ça sert à le transformer en une personne polie, de grossier à poli, de mal élevé à bien élevé. De lui enseigner ça, de lui dire, tu ne peux pas demander n'importe comment. Il y a une bonne manière de demander et il y a une mauvaise manière de demander. Ça sert à lui enseigner puis à l'aider dans cette transformation-là de devenir une personne bien élevée dans la société, une personne polie. Et de la même manière, ce matin, à partir du Notre Père, on va voir qu'au-delà d'une prière qu'on peut réciter, parce que c'est une prière qui est récitée et je dirais qu'on peut encore réciter, il n'y a pas de mal là-dedans, mais au-delà d'une prière qu'on peut réciter ou d'un modèle de prière à suivre, la prière nous transforme puissamment. Et Dieu veut utiliser la prière pour nous transformer, pour nous faire passer de peut-être une mauvaise manière de prier ou de comment prier, de demander, à une meilleure manière de prier ou de demander, une bonne manière de le faire. De la même manière que de demander à mon fils de dire « s'il vous plaît, merci », aide à le transformer aussi. Dieu veut le faire avec nous. Il veut utiliser la prière pour nous transformer nous-mêmes, pour transformer notre milieu, peut-être notre famille ou notre communauté d'église. Et il veut utiliser la prière pour transformer notre ville. Et on va poser, à chaque fois qu'on va examiner le Notre Père, les différents éléments qu'on va examiner, on va se poser la question, qu'est-ce que ça change pour moi? Qu'est-ce que ça change pour mon milieu? Et qu'est-ce que ça change pour notre ville? Donc, lançons-nous. Juste peut-être quelques préliminaires pour le Notre Père. On trouve la prière du Notre Père à deux endroits dans le Nouveau Testament. Un, c'est l'évangile de Luc et l'autre, c'est l'évangile de Matthieu. Dans deux versions différentes, ce n'est pas exactement les mêmes mots ou le même contenu qui nous est donné. Mais nous, ce matin, on va étudier ensemble la version dans l'évangile de Matthieu. Mais dans l'évangile de Luc, c'est intéressant parce que Jésus donne cette prière-là lorsque les disciples entendent Jésus prier et lui demandent « Enseigne-nous à prier ». C'est alors que Jésus va leur dire le Notre Père. Il va dire « Quand vous priez, voici comment vous devez prier ». Dans l'évangile de Matthieu, ce n'est pas à cause d'une question des disciples, mais c'est plutôt en plein milieu du sermon que Jésus est en train de donner, du discours qu'il donne sur la montagne, là où il y a une foule de rassemblés autour de lui, et ses disciples s'approchent de lui et Jésus commence à leur donner un enseignement. Et dans cet enseignement-là, il va donner un enseignement sur le royaume, qu'est-ce que ça veut dire de faire partie du royaume et de vivre dans le royaume, comment on vit dans le royaume de Dieu. Et au chapitre 6, Jésus va donner une série d'avertissements contre ceux qui pratiquent la religion, mais d'une manière comme hypocrite. Donc, on voit très clairement que c'est possible d'être religieux, mais d'une manière hypocrite, et c'est possible aussi de pratiquer une sorte de religion, mais qui rend gloire à Dieu, au lieu de le faire d'une manière qui va rendre gloire à soi-même. Donc, Jésus va parler de comment donner de l'argent aux pauvres, à ceux qui sont les plus démunis, mais pas de le faire d'une manière hypocrite pour être vu puis recevoir la gloire, mais de le faire dans le lieu secret, devant Dieu, dans le but d'avoir notre récompense de Dieu lui-même. Jésus va parler de la prière. Il va dire, priez pas sur le coin des rues pour que tout le monde vous voie vos prières et pense que vous êtes si bon pour recevoir la gloire. Ça, ce serait le faire à la manière hypocrite. Dans le fond, tu le fais pas avec les bons motifs dans le but de glorifier Dieu, mais dans le but de toi recevoir la gloire. Non, voici comment vous devez prier autrement pour glorifier Dieu. Et la même chose avec le jeûne. Et c'est intéressant parce que le Notre Père est dans ce contexte-là où, d'exhortation où Jésus dit, il y a deux manières de vivre la vie chrétienne, si on veut. Il y a une manière hypocrite de le faire, une manière qui poursuit notre propre intérêt et notre propre gloire, et il y a une manière non hypocrite, une manière de le faire tel que Dieu le demande et qui poursuit plutôt la gloire de Dieu. Et c'est dans ce contexte-là que Jésus va dire, voici maintenant comment vous devez prier. Il ne dit pas juste qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, mais il dit comment on doit bien le faire. Et on va regarder plus attentivement ce matin cette prière de Jésus pour les disciples qui est si, si familière à nous. On va la lire ensemble et après ça, on va en tirer quelques enseignements. Donc, je vous invite de tourner dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Et on va commencer la lecture au verset 9. Matthieu chapitre 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Daniel Anderson, un conférencier américain qui est venu ici il y a quelques années passées, donc pas le Daniel Anderson local qu'on connaît, là, qui était membre à l'église chez nous puis qui est rendu à Trois-Rivières, mais le American Daniel Anderson, ils ont exactement le même nom, donc il ne faut pas se confondre, a écrit un livre. Il est venu il y a quelques années passées, comme je disais, donner une conférence sur la prière, justement. Puis dans un de ses livres, il voit le Notre Père comme une prière en quatre mouvements. Et il donne des mots-clés pour se souvenir de chacun de ces mouvements-là. Qui, comment, quoi et où. Le premier, c'est « Qui est Dieu? » Cette prière-là commence avec « Qui est Dieu? » Elle définit notre Dieu. Ensuite de ça, « Comment je réponds à cette révélation de Dieu-là? » Comment je réponds à « Qui est Dieu? » Moi, en tant qu'être humain. Dans un sens, « Qui je suis et qu'est-ce que je devrais faire? » Deuxièmement, « Je prie à propos de quoi? » Donc, « Qui? » Comment? Quoi? Je prie à propos de quoi? Qu'est-ce que je devrais demander dans mes prières? Et dernièrement, où je vais maintenant? À quoi Dieu m'appelle? Où veut-il m'envoyer? Où est-ce que je vais aller le servir et servir les frères et sœurs et le monde? Donc, intéressant comme approche, et j'abonde dans ce sens-là, je trouve que c'est une belle manière de voir globalement le Notre Père. Et on va utiliser ce modèle-là, si on veut, ou cette structure-là du Notre Père pour l'explorer davantage ce matin. Donc, on commence avec « Qui est Dieu? » Eh bien, Jésus nous dit très clairement qui Dieu est lorsqu'il dit « Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. » Donc, Dieu est notre Père. Différents éléments, juste dans le mot « Notre Père », c'est intéressant de voir que Jésus s'adresse à Dieu dans un terme très familier, le Père. C'est pas Adonai, c'est pas Dieu a plusieurs noms, hein, Yahvé, Adonai, El Elyon, El Olam, on va le voir bientôt. Mais ici, Jésus s'adresse et nous indique comment nous devrions adresser Dieu, et c'est de l'appeler notre Père. Et de dire que Dieu est notre Père, ça nous indique tout de suite qui nous sommes. Qui lui est, détermine qui nous sommes. Son identité va conditionner et déterminer notre identité. Et qui je suis, c'est un enfant de Dieu. Un enfant adopté dans la famille de Dieu. C'est important de réaliser que tous les hommes ne sont pas automatiquement enfants de Dieu dans le sens où Jésus nous le présente ici. Les enfants de Dieu, ce sont ceux qui sont nés de Dieu, qui sont nés de nouveau, qui ont été adoptés dans la famille de Dieu. Oui, dans un certain sens, puisqu'on est tous les hommes sont créatures de Dieu, même il y a un passage dans le livre des Actes qui parle des hommes comme de la race de Dieu, comme si on était comme tous les hommes des enfants de Dieu dans ce sens-là. Mais dans le sens que Jésus en parle ici, c'est un sens très familier. C'est quelqu'un qui connaît son Dieu comme son père, qui a une relation personnelle avec lui. Il peut l'appeler papa, père. Et donc, c'est chacun d'entre nous qui avons été adoptés dans la famille de Dieu à cause de la grâce de Dieu. Donc, on est une famille, Dieu est notre père. Et c'est intéressant de voir que Jésus, tout le Notre Père, est au pluriel. C'est pas « mon Père céleste, que ton nom soit sanctifié, donne-moi mon pain quotidien aujourd'hui, pardonne-moi mes offenses. » Non, c'est tout au pluriel. Nous, donne-nous notre pain, pardonne-nous nos offenses. Et ça pointe vers le fait que le Notre Père est une prière de famille, c'est notre prière familiale. On fait partie de la famille de Dieu et c'est une prière qui cherche à nous rassembler autour de Dieu, toute la gang. C'est une prière qu'on devrait prier en famille. C'est pas pour rien que dans l'histoire, le Notre Père est devenu quelque chose qui a été récité à maintes reprises, devenu partie de la liturgie de plusieurs traditions d'Église chrétienne. Elle était récitée alors que le peuple de Dieu était rassemblé. C'était une prière d'appartenance à la famille de Dieu. Et nous sommes tous dans la même famille, nous vivons tous les mêmes genres de choses, les mêmes genres d'expériences, nous avons les mêmes genres de luttes et nous avons tous besoin de se rassembler les uns avec les autres autour de Dieu et lui demander de nous bénir, lui demander les choses que Jésus demande dans cette prière-là. Donc, c'est quelque chose qui nous pointe aussi vers l'importance de la prière en communauté, en groupe, de prier les uns pour les autres, comme dans Jacques chapitre 5, verset 16. C'est enseigné dans d'autres passages de la Bible, l'importance de vivre la prière en communauté et de pas seulement la vivre en solo. Donc oui, Dieu est notre Père, mais c'est intéressant parce que ça dit aussi notre Père céleste dans d'autres versions que second 21. Peut-être que vous avez remarqué que c'est pas exactement les mots auxquels vous êtes habitués. Hein, moi, je l'ai lu dans la second 21, notre Père céleste au lieu de notre Père qui est aux cieux. J'aime bien la version second 21, puis on va voir pourquoi des fois elle clarifie certaines notions. On est tellement familier avec la version traditionnelle qu'on récite par cœur que des fois on perd la profondeur puis le sens des mots. Ici, ça nous parle du fait que Dieu est au ciel. Donc, qui est Dieu? Mais l'autre question, c'est où est Dieu? Où est Dieu? Psaume 115, verset 3, « Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. » C'est intéressant parce que le contexte de Psaume 115, verset 3, c'est un contexte où les Israélites, on se moquait d'eux parce qu'ils n'avaient pas de Dieu visible. Leur Dieu était invisible. Alors, on leur disait, « Votre Dieu n'existe pas parce que personne ne peut le voir. » Nous, les non-juifs autour du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, disaient, « Nous, on a des idoles qu'on peut toucher, qu'on peut voir, à qui on peut parler, s'adresser. On leur donne même de la nourriture. » Nous, notre Dieu est réel et très vivant. Regarde, il est juste là, dans le salon. Mais vous, votre Dieu est invisible. Hein? Où est votre Dieu? Et justement, dans le verset 3, le peuple d'Israël répond, « Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. » Ce n'est pas comme une idole limitée qu'on peut voir et toucher, qu'on peut brûler, qu'on peut jeter aux poubelles, qu'on peut prendre puis qui a besoin d'être transporté, qui n'est pas capable de parler, qui n'est pas capable d'agir. C'est pas comme une idole qui est limitée dans l'espace et le temps. Non, notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. C'est une vision grandiose de qui est Dieu et de comment il règne et du fait qu'il est au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. Il est au-dessus de la création. C'est pas un Dieu domestiqué qui se confond à la nature ou à la création. C'est un Dieu qui est tout autre, un Dieu qui nous dépasse. Totalement. On parle ici de la transcendance de Dieu. Il transcende l'espace et le temps. Il va au-delà. Transcender, c'est aller au-delà. C'est comme traverser. Ses voix ne sont pas nos voix. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Ses voix sont au-dessus de nos voix. Ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Voici notre Dieu. Donc, on reconnaît que Dieu est notre Père céleste, premièrement, et ensuite on réagit à qui il est. La suite dit « Que la sainteté de ton nom soit respectée. » Ça, c'est comment je réponds à Dieu. Premièrement, qui est Dieu? Mais maintenant, comment est-ce que je devrais répondre à Dieu? Dans les Écritures et l'Antiquité, le nom d'une personne décrit le caractère de cette personne et qui il est. Souvent, on nommait quelqu'un selon les circonstances de sa naissance ou selon son caractère. Parfois, dans l'Ancien Testament, on voit que des personnes avaient un nom, puis plus tard dans leur vie, ont changé de nom selon le caractère ou selon à quoi Dieu les appelait à faire, ce à quoi Dieu les appelait à faire. Quand ça vient avec Dieu, le nom de Dieu décrit aussi le caractère de Dieu et l'action de Dieu. J'ai trouvé une page, est au kiosque de Bienvenue, si jamais vous voulez aller la chercher après le service. Mais sur Internet, c'est une page recto verso. J'ai trouvé une variante, à peu près 20, près de 20 variantes du nom de Dieu. 20 versions, si on veut, du nom de Dieu qui nous est révélé dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament aussi. On voit Elohim, puissant et fort, El Shaddai, tout puissant, Adonai, qui veut dire Seigneur, Yahvé, traduit par éternel dans nos versions françaises, le tétragramme sacré, c'est-à-dire YHWH, sans voyelle. On ne sait pas exactement comment le prononcer maintenant, parce qu'on ne sait pas exactement quelle voyelle qui va là, il y a différentes options, mais c'est Dieu quand il s'est révélé à Moïse dans Exode chapitre 15, et il dit « Je suis celui qui est ». Traduit par « éternel » dans nos versions françaises. « El Elyon, Dieu très haut. El Olam, Dieu d'éternité. » Et il y en a plusieurs autres. Donc, si vous voulez aller chercher cette feuille-là après, ça peut être utile pour justement prier et connaître davantage notre Dieu en étudiant davantage ses noms. Le texte nous dit « Que la sainteté de ton nom soit sanctifiée, soit respectée » dans la seconde 21. Dans d'autres versions, on va lire « Que ton nom soit sanctifié. » Mais dans Second 21, c'est « Que la sainteté de ton nom soit respectée. » Intéressant comme formulation, puis je pense que ça nous aide à comprendre davantage qu'est-ce que ça veut dire de sanctifier le nom de Dieu. La sainteté dans les Écritures signifie séparation, mettre à part ou mise à part. Dans l'Ancien Testament, dans le Temple, il y avait des ustensiles spécifiques qui étaient sanctifiés pour le service au Temple, pour faire différentes choses très spécifiques avec ces ustensiles-là. Ce n'était pas comme les autres ustensiles. Il y avait d'autres ustensiles génériques, si on veut, ou qu'on pouvait utiliser pour n'importe quoi, mais il y avait certains ustensiles qu'on sanctifiait, qu'on mettait à part des autres, qu'on séparait des autres pour qu'ils soient utilisés pour quelque chose de bien précis. Donc, sainteté, c'est cette séparation-là ou cette mise à part. La Bible dit que nous sommes déclarés saints. Nous sommes mis à part du reste du monde parce que nous faisons partie de la famille de Dieu et du peuple de Dieu. Lorsqu'on parle de la sainteté du nom de Dieu, on parle de la sainteté de Dieu lui-même. Le fait que Dieu est séparé du reste de tout ce qui existe et du reste de la création. Dieu est créateur, nous sommes créatures. Il est dans sa propre catégorie. Personne d'autre comme Dieu n'existe. Il y a eu un temps où seul Dieu existait. Et quand il a décidé de créer, il a créé en dehors de lui-même. La création, ce n'est pas une extension de Dieu ou une partie de Dieu. Dieu est dans sa propre catégorie. Dieu est aussi moralement pur et sans tache. C'est ce que veut dire aussi la sainteté. Dans un sens, il n'y a personne d'autre comme lui. Il n'y a personne d'autre qui peut être moralement pur et sans tache. Il est sans péché et incapable de toute méchanceté. Le chant qui dit « Mon Dieu est si fort, si grand et si puissant, mon Dieu est capable de tout faire », pas tout à fait vrai. Il n'est pas capable de pécher, mais on comprend que le chant veut dire « Mon Dieu est capable de tout faire ce qu'il veut faire ». Tu sais, on comprend, mais il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Il n'est pas capable de méchanceté ou de péché. Il ne peut pas être tenté par le mal, nous dit Jacques dans le Nouveau Testament, et il ne tente lui-même personne. Donc, que la sainteté de ton nom soit respectée, c'est l'idée de reconnaître cette sainteté-là de Dieu lui-même, le reconnaître comme le saint, et de le louer et de l'adorer comme le saint, celui qui est dans une autre catégorie et mis à part. C'est de le mettre à part aussi dans notre cœur, comme un Dieu unique, parce que rien d'autre n'est comme Dieu. Les psaumes nous disent « Nul n'est comme toi, ô Éternel ». Qu'est-ce que ça change de savoir qui Dieu est, notre Père céleste, et de savoir comment on devrait répondre à cette révélation de lui? Eh bien, qu'est-ce que ça change pour moi? Qu'est-ce que ça change pour mon milieu et qu'est-ce que ça change pour ma ville? Pour moi, je dirais que ça change tout. En fait, tout est affecté par la réalité de Dieu. Il n'y a pas une trace de notre être et de l'univers qui n'est pas affecté puis impacté par l'existence et la réalité de notre Dieu qui est saint, de notre Dieu qui est au ciel et qui fait tout ce qu'il veut. Mon identité est fondée sur l'identité de Dieu, on le dit. Toutes mes décisions, toute ma manière de vivre, le souffle de vie que j'ai, tout ça dépend de Dieu. Donc, ça change tout, en fait, pour moi, de savoir que Dieu est notre Père. Quand ça va mal, quand ça va bien, je me souviens de qui est Dieu et de qui je suis à la lumière de qui il est, et ça change tout. Je me souviens de qui est Dieu, puis je me souviens de qui je suis devant lui, à la lumière de qui il est. Si tu souffres, souviens-toi que Dieu est ton Père qui t'aime et qui veut prendre soin de toi. Et je suis presque sûr à 100% qu'il y a des gens qui souffrent ici aujourd'hui. Don Carson disait, si vous vivez assez longtemps, vous allez souffrir. La souffrance fait partie de nos vies. Plusieurs d'entre vous, certainement, sont en train de souffrir ce matin. Souviens-toi que Dieu est ton Père. Il t'aime. Il veut prendre soin de toi. Remets pas en doute qui il est à cause de ta souffrance. Ce serait une erreur. Souviens-toi plutôt de qui il est, de qu'est-ce que lui dit de ta souffrance et à ton sujet. Il t'aime et il prend soin de toi et veut te faire grandir. Si tu doutes que Dieu peut faire quelque chose pour ta situation, qui a de l'air désespéré, souviens-toi qu'il est El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Souviens-toi des noms de Dieu. Prends les noms de Dieu. Applique-les à ta situation. Applique-les à ta circonstance. Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit quand tu doutes que tu vas pouvoir rencontrer les deux bouts. Si tu te dis chrétien et chrétienne, puis que tu vis une vie qui n'est pas conforme à la sainteté du nom de Dieu, réalise comment sérieux c'est d'être dans cette situation-là. Tu te dis chrétienne, tu dis que Dieu est ton Père céleste, et ta vie en ce moment n'est pas conforme à la sainteté de son nom et à la sainteté de sa personne. Ce que tu as besoin de faire à ce moment-là, c'est de te souvenir combien Dieu est saint et de te repentir de ce comportement qui n'est pas conforme du tout à sa sainteté. Parce que de vivre de cette manière-là et de te dire chrétien, c'est de prendre son nom et de le traîner dans la boue. C'est de blasphémer son nom au lieu de respecter la sainteté de son nom, comme Jésus nous l'enseigne ici. Donc, ça change beaucoup de choses pour chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que ça change pour notre milieu, notre famille ou notre église? Eh bien, si Dieu est notre Père, nous sommes membres de sa famille. Nous sommes membres de sa famille. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si tu souffres ce matin ou tu vis une situation difficile, tu n'as pas à souffrir tout seul dans ton coin. On est là pour t'aider. La famille est là pour t'entourer. On a peur, on a honte, on a, pour toutes sortes de raisons, on n'appelle pas, on ne contacte pas. On aimerait que les gens puissent voir notre douleur, puis eux prendre l'initiative, puis je pense qu'on a une responsabilité de faire ça les uns envers les autres. Mais ne souffre pas tout seul dans ton coin non plus. Fais appel à l'aide. À l'Église de Sentier, on a toutes sortes de contextes dans lesquels on espère que vous allez entrer en relation les uns avec les autres. On a des groupes maisons, des ministères variés pour les couples, les hommes, les femmes, les ados, les enfants, pour la famille au complet. Il faut profiter de ces ressources-là. Il faut vivre la vie les uns avec les autres. N'essaie pas de t'en sortir seul. Il y a une famille qui est là pour t'aider. Quand on lit « Vous serez saints car je suis saint » dans Lévitique 19 ou dans la première épître de Pierre, ça nous dit quelque chose sur le pouvoir en famille de vivre comme un peuple de Dieu, comme une famille de manière sainte. La sainteté de ta famille, la sainteté de la communauté de l'Église, le fait qu'on va vivre différemment en tant que communauté va parler fort au monde qui est autour de nous. Et Dieu va l'utiliser pour que notre amour soit reconnu par ceux et celles qui nous entourent, de vivre à contre-courant de ce que la société, le système de valeurs qui compte Dieu, veut nous encourager de vivre, va avoir un impact puissant sur ceux qui nous regardent, puis qui se posent la question, comment ça se fait que lui ou eux vivent tellement différemment de nous? Ça va les attirer et créer une curiosité chez eux. Et ça va démontrer la réalité de l'Évangile. Alors, qui Dieu est et comment je dois répondre à qui il est a un impact pour ma vie, pour mon milieu et aussi pour ma ville. Autour de nous, il y a tellement de familles brisées, des enfants blessés, des personnes rebelles à Dieu. Je pense que Dieu nous encourage ici de les inviter à rejoindre la famille de Dieu. On ne veut pas se réunir en nous, chanter Kumbaya en se tenant la main, dire Amen, puis laisser les autres dans leur détresse et leur désespoir. On veut les inviter à prendre part à la famille de Dieu. Nous sommes dans le monde pour le monde. Oui, on a besoin d'être préservé du mal, on a besoin de se garder dans un sens du monde qui veut nous influencer, du monde qui veut nous attirer à lui, mais nous sommes dans le monde pour le monde, pour aller le chercher. C'est à nous d'être cette influence envers le monde. Donc, qui Dieu est, c'est notre Père céleste qui mérite qu'on respecte la sainteté de son nom dans ma vie, dans notre milieu et même dans notre ville. Mais Jésus continue la prière en disant « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Donc, on passe à une autre étape de comment je devrais répondre. C'est de demander, de soumettre ma vie à la volonté de Dieu, notre Église à la volonté de Dieu, de soumettre notre vie au roi des rois, à celui qui est le roi du royaume. Quand Jésus dit « Que ton règne vienne », il fait référence à un royaume dont Dieu est le roi. Le règne de Dieu part du royaume de Dieu. Si lui, il est le roi, nous sommes ses sujets. Dieu règne premièrement sur l'univers en entier, mais Dieu règne aussi dans nos cœurs. Jésus lui-même a dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Ce n'est pas un royaume physique. Je ne suis pas venu établir un royaume là, physiquement sur la terre tout de suite, en sa première venue. En tout cas, ce n'est pas ça qu'il est venu faire. Il est venu établir son royaume dans chacun de nos cœurs. Deuxièmement, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est Dieu que je veux suivre. C'est sa volonté à lui, révélée dans la parole de Dieu, la Bible, que je veux accomplir. Ce n'est pas ma volonté que je veux accomplir. On parle ici d'une soumission volontaire, radicale et progressive à Dieu dans chaque aspect de nos vies. De lui obéir dans chaque aspect de nos vies, qu'il n'y ait pas un aspect de nos vies qui ne soit pas soumis à sa volonté. C'est radical parce que ça touche tout. Il n'y a rien qui est laissé intact. Dieu veut qu'on puisse lui soumettre chaque aspect de nos vies. Il veut régner et il veut accomplir sa volonté dans chaque aspect de nos vies personnelles, dans chaque aspect de la vie de l'Église et dans chaque aspect du monde. Dieu veut établir son règne et accomplir sa volonté partout dans le monde, sur la terre comme au ciel. Il n'y a rien qui est laissé de côté par sa volonté et par son règne. Donc, c'est radical dans ce sens-là, mais aussi progressif. Parce que quand je regarde dans mon cœur, si vous regardez dans votre cœur, dans votre vie, dans cette Église et dans le monde qui nous entoure, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore soumises à sa volonté. Il y a beaucoup de choses qui vont très mal dans le monde aujourd'hui. Donc, c'est progressif. Dieu l'a commencé déjà. Il a commencé à établir son règne, il a commencé à accomplir sa volonté déjà sur la terre comme au ciel, mais ce n'est pas encore terminé, le déjà pas encore. C'est déjà commencé, mais pas encore terminé. Et donc, on vit dans cette l'inauguration de ce que Dieu a déjà fait en Jésus, mais qui va terminer complètement seulement lorsqu'il va revenir à la fin des temps. Donc, il ne faut pas se décourager parce qu'il reste encore du travail à faire. Dieu promet qu'il veut transformer nos vies. Il veut utiliser cette prière pour nous transformer. On ne veut pas se décourager, mais on veut joindre Dieu dans ce travail-là. Et il veut utiliser cette prière pour nous transformer puissamment, comme je disais au début. C'est intéressant ici, juste mentionner, est-ce qu'il y a un domaine dans ta vie présentement sur lequel Dieu ne règne pas encore? Est-ce qu'il y a un domaine que tu as besoin encore de lui soumettre à ta vie. C'est progressif. N'en prendre 10 à la fois, ce serait peut-être too much, ce serait trop. Mais est-ce qu'il y en a un? Est-ce qu'il y en a un pour cette semaine? Est-ce qu'il y en a un pour aujourd'hui que tu peux lui soumettre? Soumets-lui dans la prière. Jésus t'invite à faire cette prière et lui soumettre ce qui a besoin d'être soumis dans ta vie. C'est lui qui t'invite à le faire. Chose intéressante, dans cette requête-là ici, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, on a vu la transcendance de Dieu, hein, le fait que Dieu est au-delà, au-dessus. Ça, des fois, quand on pense à la transcendance de Dieu, on a l'impression que Dieu est tellement loin, inaccessible, que Dieu ne se soucie pas de nous. Mais c'est intéressant ici que Jésus dise que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu s'intéresse à la terre. Il s'intéresse à ton travail, à la voiture que tu conduis. Il s'intéresse à ta femme, à tes enfants, comment tu les élèves. Il s'intéresse à quelle sorte de maison tu achètes, dans quel quartier, quel genre de relation tu as avec tes voisins. Il s'intéresse à ton mariage. Oui, c'est un Dieu transcendant, mais c'est un Dieu qui se soucie de tout ce qui se passe sur la terre. Il veut que son règne puisse aller dans chaque aspect de ta vie et de l'univers. « Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, dit Dieu à Josué, dans Josué 1:5. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Dieu n'est pas un Dieu insensible, lointain, inaccessible. Ce n'est pas un horloger qui a craqué l'horloge, puis après ça, qui s'est retiré, puis qui la laisse fonctionner tout seul sans intervenir. Ça s'appelle le déisme. Dieu, ce n'est pas ça. Dieu, c'est un Dieu qui s'intéresse à toi, qui s'intéresse à chaque aspect de ta vie. Je serai avec toi. Dieu, c'est un Dieu présent et immanent. La transcendance et l'immanence de Dieu qu'on voit dans les Écritures. C'est un Dieu qui dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Donc, qu'est-ce que ça change pour moi de dire et de prier que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel? Bien, ça me dit que mon Père, c'est le roi. Moi, je trouve ça un sujet de fierté de savoir que mon Père céleste, c'est aussi le roi. Je suis dans son royaume. C'est le king. Tu comprends? Un sujet de fierté, mais un privilège. Parce que si je suis l'un de ces sujets et que mon Père, c'est le roi, c'est par pure grâce. Je ne peux pas vraiment m'en vanter. Mais ça me fait penser à Timothée Jolin, qui était chez moi vendredi et samedi. Les quatre enfants de la famille Jolin, donc Coralie, Michael, Isaac et Timothée, ont couché chez nous vendredi soir. J'étais toute seule à la maison avec 8 enfants. Marie travaillait vendredi toute la journée. J'avais les 4 miens, les 4 Jolins. C'était quelque chose. Fait que j'étais à la cuisine, puis après le dîner, j'ai dit aux enfants, il n'y a pas personne qui se lève de table sans passer à l'évier de cuisine pour se laver les mains, parce qu'il y avait les mains pleines de sauce tomate. Fait qu'un après l'autre, je leur faisais laver les mains. Mais le petit Jolin, il a peut-être 2, 3 ans, 2 ans, je pense, pas capable, pas assez haut. Fait que je le prends pour le lever, puis qu'il puisse avoir accès à l'eau. Puis là, il me dit, sa réaction, c'est « Mon papa, il est vraiment fort. » Je ne sais pas si vous avez vu Jonathan Jolin, si vous savez c'est qui. Mais j'aurais dû avoir une photo de lui pour vous le montrer, mais il a à peu près des bras 3 fois plus gros que les miens. Un cou à peu près large comme... il fait du... comment on appelle ça? Des weights. Des poids et haltères. Puis mon fils Philippe à côté dit, « Mais mon papa aussi est fort. » Et moi de dire, « Oui, mais son papa, il est plus fort que moi. » Comme, on se comptera pas de menterie, là. Mais c'est un peu ça. Écoute, notre Père, c'est le roi des rois. C'est notre Père céleste. Il y a un sujet de fierté. C'est pas mal d'en être fier. Ça me rend humble, en fait, de réaliser que mon Père céleste, c'est le roi des rois, le roi de l'univers. Puis une certaine responsabilité, parce que ça veut dire que je ne peux pas agir n'importe comment, parce que quand je sors d'ici, puis de chez moi, puis que j'interagis avec le monde à l'extérieur, puis tous ceux qui sont partout à Gatineau, je le représente. Je suis l'un de ces sujets du roi des rois. C'est une humilité tellement grande et en même temps, une grande responsabilité. Mais Dieu est là pour nous aider à bien le représenter. Donc, ça change quelque chose pour moi. Ça change quelque chose pour mon milieu de dire que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Par exemple, je sais que dans ma famille, il y a beaucoup de chicanes à propos de plein de sujets. Moi, je veux élever les enfants d'une certaine manière ou je veux faire telle chose avec nos finances. Puis ma femme, c'est complètement différent. Elle a d'autres projets, elle a d'autres préférences. Avec mes enfants, c'est la même chose. Eux autres veulent se coucher tard. Je leur dis non, c'est pas une bonne idée. Ça crée toutes sortes de chicanes. J'ai mon opinion, ils ont leur opinion, mais savez-vous quoi? L'important, c'est pas mon opinion ou leur opinion. L'important, c'est qu'est-ce que Dieu veut. C'est ça qui compte. C'est pas ma préférence personnelle, ni la tienne, ni celle de Pierre-Jean-Jacques. C'est que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans l'Église, quand on parle de vision d'Église, c'est un peu la même chose. On cherche à accomplir la volonté de Dieu. On fait une vision, on dit pour les prochaines années, on veut s'en aller dans cette direction-là. On fait des réunions annuelles où on réunit tous les membres ensemble. On présente un budget, on dit cette année, voici ce qu'on va faire. C'est des chiffres en avant qui sont attachés, qui représentent des projets ou des choses qu'on veut faire cette année avec de l'argent physique, du matériel. Voici les projets qu'on a pour cette année. Et on prie le Seigneur et on lui demande qu'on puisse discerner ta volonté et que ce soit ta volonté qu'on fasse et non juste nos idées humaines. Et lorsqu'on fait ça une fois par année, par exemple, c'est ce que nous demandons au Seigneur. Et quand toute l'Assemblée vote pour dire oui à ce budget-là, toute l'Assemblée est en train de dire, ensemble, on reconnaît que c'est ce que Dieu veut qu'on fasse ici à l'Église des Sentiers cette année. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La même chose pour notre ville, dans notre travail, nos loisirs, notre implication sociale. C'est poursuivre la volonté de Dieu qu'on veut et pas juste notre agenda personnel. On peut participer à la mission de Dieu de faire avancer son royaume autour de nous. Mais ça ne sera pas son royaume qu'on fait avancer si on ne lui demande pas que ta volonté soit faite et qu'on n'agit pas en conséquence de cette prière-là. Donc, qui est Dieu? Comment je réponds à Dieu? Et maintenant, je prie à propos de quoi? Qui est Dieu? On l'a vu, notre Père céleste. Comment je réponds à Dieu? On veut respecter la sainteté de son nom. On veut lui demander que son règne vienne, que sa volonté soit faite. Et maintenant, je prie à propos de quoi? Eh bien, le texte, c'est vraiment intéressant, nous dit, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Donc, je prie à propos de quoi? Bien, je prie que Dieu puisse pourvoir à tout ce que j'ai besoin. Pas juste les biens matériels, bien que ça l'inclut, les biens matériels, mais tous mes besoins émotionnels, spirituels, relationnels, que Dieu puisse y pourvoir. Et Dieu veut pourvoir à ces choses-là. Les versets 19 à 34 de Matthieu chapitre 6, la fin du chapitre où on trouve le Notre Père, c'est une série d'argumentations que Jésus donne pour essayer de nous convaincre de ne pas s'inquiéter de rien, mais de chercher d'abord le royaume de Dieu. Puis toutes ces choses, nous dit-il, vont vous être données en plus. Nous avons un Dieu qui pourvoit à nos besoins. Si Dieu est qui il dit être et qui il est vraiment, alors nous sommes totalement dépendants de lui. José Lemoine, un de nos anciens pasteurs ici à l'Église des Sentiers dans les années, début des années 2000, fin 90, début 2000, disait souvent que la prière est notre déclaration de dépendance envers Dieu. Alors que le fait de ne pas prier, c'est une manière de déclarer qu'on est indépendant de lui, qu'on ne veut rien savoir de lui, une déclaration d'indépendance. Nous avons un Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Qu'est-ce que ça change pour moi? Bien, j'ai deux questions pour vous. Si nous avons un Dieu qui veut pourvoir à tous nos besoins, puis que Jésus nous demande de lui demander de nous donner aujourd'hui notre pain quotidien, est-ce que je peux demander que Dieu me rende millionnaire? Ou est-ce que je dois demander que Dieu me garde pauvre? Non. Il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est la définition du contentement. Proverbe 30, versets 7 et 9 dit, « Je te demande deux choses, ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et le mensonge, et ne me donne pas, et ne me donne ni pauvreté, ni richesse, mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Sinon, je risquerais, une fois rassasié, de renier et de te dire, qui est l'Éternel? Ou après avoir tout perdu, de voler et de m'en prendre au nom de mon Dieu. Donne-moi ni pauvreté, ni richesse. Dieu ne désire pas nous garder dans la pauvreté. C'est faux de penser ça. Il ne désire pas non plus à tout prix nous rendre millionnaires. Devenir chrétien, ce n'est pas de devenir tellement riche, d'avoir tout ce qu'on veut. et que c'est ça que Dieu veut absolument faire pour nous. S'il veut te rendre millionnaire, qu'il te rende millionnaire. C'est bien. Puis si tu perds quelque chose, si tu en as moins que les autres, si tu es pauvre, ça fait partie aussi de la souveraineté de Dieu. Mais je ne pense pas que c'est des choses qu'on devrait automatiquement demander à Dieu. Et le point de cette requête-là, c'est pas ça, c'est le contentement. Donne-moi que je puisse être... Rends-moi content de ce que tu me donnes et donne-moi ce que j'ai besoin pour en être content. Donc, qu'est-ce que ça change pour moi, toutes ces choses, mais qu'est-ce que ça change pour mon milieu? Mais je pense que, justement, quand on demande à Dieu de nous donner aujourd'hui notre pain quotidien, ça a des implications pour notre famille, pour notre Église, et même au-delà pour notre ville, pour les gens autour de nous. Par exemple, 1 Timothée 5,8 nous dit « Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi et il est pire qu'un non-croyant. » On a une responsabilité envers notre famille et aussi envers la famille de Dieu. Galates chapitre 6, verset 10 dit « Pratiquons le bien envers tous et en particulier envers nos proches dans la foi. » Oui, on a une responsabilité envers notre famille. Si on ne prend pas cette responsabilité-là en main, ça fait, on est en train de contredire cette requête-là. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Dieu nous donne des choses, mais pour qu'on puisse en être responsable et les partager avec ceux qui en ont besoin. Et si dans notre famille, il y a des besoins, Dieu nous appelle, pas juste à prier pour nous-mêmes, mais à juste nous bénir pour nous bénir nous-mêmes. Mais si on a reçu la bénédiction, il veut qu'on puisse la répandre aux autres. Donc, il nous appelle à bénir les membres de notre famille, rencontrer leurs besoins, et même les membres de la famille de Dieu dans l'Église. Pour la ville, c'est un peu le même genre de choses. Il nous invite à donner pour ceux et celles qui sont dans le besoin autour de nous, même s'ils ne sont pas des proches dans la foi. Hein? Verset 10, Galates 6, 10, « Pratiquons le bien envers tous. » Donc, je prie à propos de quoi? C'est la dernière chose qu'on veut regarder ce matin. C'est presque, notre temps est court. On va le regarder vite fait et on va terminer sur ça. Donc, qui est Dieu? Comment est-ce que je réponds à Dieu? Je prie à propos de quoi? Eh bien, une des dernières choses ici qu'on va regarder, c'est la dernière requête, pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le thème de Libération 21 cette année, c'est de l'amertume à la grâce. Et on va terminer ici parce que justement, je veux être capable de mettre l'accent sur cette question. Il y a un lien de dépendance entre le pardon qu'on reçoit de Dieu et le pardon qu'on donne à quelqu'un d'autre. Pardonne-nous nos offenses comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Comme nous aussi peut vouloir dire parce que, tu sais, pardonne-nous nos offenses parce que nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, mais peut aussi vouloir dire de la même manière. De la même manière que tu pardonnes nos offenses, nous aussi, nous voulons pardonner à ceux qui nous ont offensés. Au verset 14, on lit « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. » On peut penser ici que Dieu veut nous pardonner si et seulement si nous, on pardonne à ceux qui nous ont offensés. Comme si le pardon qu'on reçoit de Dieu est conditionnel à notre performance humaine dans le pardon. Si tu performes bien dans le pardon, là, Dieu va te pardonner. Mais si tu performes mal dans le pardon et tu n'es pas capable de pardonner à ceux qui t'ont offensé, Dieu ne va pas te pardonner. Et on lit le texte et c'est ça qu'on comprend à première vue. Mais partout dans les Écritures, on sait que le pardon de Dieu nous est donné par grâce, par la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas conditionnel à notre mérite, ce n'est pas conditionnel à notre performance. Donc, le texte ne peut pas simplement dire que Dieu va nous pardonner si et seulement si nous, on pardonne aux hommes. Tim Keller, pour nous aider à comprendre ce texte-là, nous dit « Si nous n'avons pas reconnu notre péché et expérimenté le pardon de Dieu, nous ne pourrons pas pardonner aux autres et vouloir leur bien. » Donc, la relation de condition ou de dépendance, ce n'est pas que le pardon de Dieu, à mon égard, dépend de mon pardon des autres. C'est plutôt le contraire. C'est que si j'expérimente le pardon de Dieu, je vais pouvoir pardonner aux autres. Mais si je ne suis pas capable d'expérimenter le pardon de Dieu, si je n'ai pas expérimenté le pardon de Dieu, je ne serai pas capable plutôt de pardonner aux autres. ça va être très, très difficile de pardonner aux autres. L'amertume qui persiste, dit Keller, est le signe que nous ne sommes pas en paix avec Dieu. De rechercher le pardon de Dieu et en même temps de ne pas vouloir pardonner à quelqu'un, c'est de s'attacher à l'amertume. Puis ça démontre une hypocrisie de notre part. Si on a vraiment connu puis reçu le pardon de Dieu, de refuser de pardonner quelqu'un d'autre, c'est d'agir d'une manière hypocrite. C'est de dire que finalement, je veux rien savoir du pardon de Dieu, moi non plus. Hébreux 12, 15 nous dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient affectés. » Tu sais, tu peux nourrir de l'amertume à propos de beaucoup de sujets et envers beaucoup de personnes. La première, c'est Dieu. Tu peux nourrir de l'amertume envers Dieu pour une situation peut-être que tu trouves injuste, des choses que tu penses qui ne devraient pas t'être arrivées. Puis il y en a qui c'est des choses vraiment troublantes. Mais de nourrir cette amertume-là, c'est de se priver de la grâce de Dieu. Dieu, en Jésus-Christ, nous a pardonné totalement. Et si on pouvait simplement comprendre davantage et ne pas se priver de cette grâce de Dieu-là qui est faite, il ouvrirait notre cœur pour qu'on puisse pardonner les choses les plus impardonnables, les choses qu'on pense qu'on ne sera jamais capable de pardonner. Tu peux nourrir de l'amertume aussi, puis refuser de pardonner, pas juste seulement Dieu, mais les autres autour de toi qui t'ont offensé. Et Dieu t'invite ce matin à ne pas rester dans cette amertume-là, mais d'en être libéré totalement. C'est l'invitation qu'il te lance, de prier « Pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » C'est en fait de dire « Seigneur Dieu, je reconnais que tu m'as pardonné par grâce à la croix quand Jésus est mort à la croix pour moi. » Je ne méritais pas que tu me pardonnes, mais Jésus a subi ma condamnation pour moi. Et maintenant, je veux que tu remplisses mon cœur de pardon et de ton amour, afin que moi aussi je puisse pardonner à ceux qui m'ont fait du mal. C'est ma prière pour vous, que vous puissiez prier ce Notre Père cette semaine, que vous puissiez pas juste prier les mots exacts qu'on vient de dire, mais prier l'esprit du Notre Père. Que Dieu puisse, dès maintenant, j'aimerais inviter l'équipe à venir, mais dès maintenant, alors qu'on chante le prochain chant, un chant tellement approprié, tel que je suis, que Dieu puisse mettre le nom d'une personne dans votre cœur, envers qui vous nourrissez encore de l'amertume, et qu'il puisse vous libérer et vous donner le courage et le désir de pardonner cette personne-là. Peut-être que, au contraire, Dieu va mettre le nom d'une personne que vous avez offensée, et que vous avez besoin d'aller voir pour lui demander pardon. Ça va dans ce sens-là aussi. Mais que le Seigneur puisse utiliser ce chant, vraiment que vous puissiez le prier, comme le chanter comme une prière, et demander à Dieu. S'il y a un nom qui vient dans votre tête, dans votre cœur, de quelqu'un que vous avez offensé, que vous avez besoin d'aller vous réconcilier avec, ne le mettez pas de côté. Prenez ce chant-là, prenez cette occasion-là pour prier à Dieu et lui demander de vous libérer. Amen. Thank you.